Chapitre 18. Il a fallu trouver un moyen de continuer à faire exister la maison de production de Gênes. 2 mois après sa mort, Ninon, Marcel et moi avons reçu le même courrier que nous a transmis un notaire. C'était une lettre manuscrite. C'était la première fois que je recevais une lettre de Gênes. Il avait fallu qu'il meure pour qu'il m'écrive. Et même si le temps écoulé entre le moment de son décès et la réception de la lettre s'expliquait par une volonté du défunt que le notaire n'avait fait que respecter, j'avais tout de même l'impression fantastique que les morts disposaient encore de la faculté de rédiger du courrier et qu'il existait quelque part, de façon clandestine, un réseau postal réservé à leur seul usage. L'écriture était heurtée, malhabile. En lisant les mots, on comprenait que celui qui les avait tracés avait eu du mal à le faire. La date qui figurait en haut de la feuille renvoyait à un moment, mi-octobre 2012, où Eugène, avec moi, faisait encore le malin en traitant sa récidive comme un bénin effet secondaire. Il savait pourtant qu'il allait mourir bientôt. Peut-être avait-il rédigé la lettre quand il souffrait beaucoup, ou lors d'une séance de chimiothérapie, dans une position inconfortable, sans support, un bras entravé par la perfusion. Dans son message, il nous enjoignait de nous entendre afin que sa société ne soit pas vendue à l'encan, que le catalogue ne termine pas entre les mains de n'importe qui, que ce qu'il avait fait dure un peu. C'était ses mots. C'est ainsi que sont nés les films de Gênes. Cela a tout de même pris plus de 2 ans. 2 ans et demi, pour être exact. Juridiquement, pour des raisons que je n'ai pas cherché à comprendre, il était compliqué de garder en l'état l'ancienne société, mais plus simple d'en créer une nouvelle dans laquelle Ninon, Marcel et les autres enfants mineurs, représentés par un avocat, une connaissance de Gênes inconnue de moi, étaient les actionnaires majoritaires. Je possédais pour ma part 10% du capital que Gênes m'avait sans m'avertir légué de son ancienne société, ainsi qu'un livre qui serait le dernier livre qu'il m'aurait offert, « Sentier sous la neige » de Mario Rigoni Stern. Sur la page de garde, il avait écrit « Cela devrait te plaire ». J'ai lu le livre. Cela m'a plu, évidemment. Et j'ai lu ensuite tous les autres livres publiés par cet auteur, qui, au fond, raconte toujours la même chose, les saisons, les guerres, les hommes, la nature dans un pauvre pays de montagne du nord de l'Italie. Mais il le fait si bien qu'on prend un plaisir simple et profond à le lire, et surtout à le relire, comme si on écoutait de nouveau des histoires connues, dites par une voix proche et que l'on aime. Dans « Sentier sous la neige », il y a un court texte que Rigoni Stern écrit après le suicide de Primo Levi, qui était son ami. Tous deux avaient dû, en 1945, traverser à pied l'Europe des morts pour revenir chez eux. Ils avaient publié leur premier livre presque la même année, mais ni l'un ni l'autre, je crois, ne s'était jamais senti un écrivain de métier. C'était les circonstances qui les avaient poussés à écrire, pour tenter de dire et de survivre. Dans le texte sur Primo Levi, Rigoni Stern parle de ses promenades à ski dans l'hiver silencieux et enneigé. Il n'est jamais seul dans ces moments. L'accompagne toujours un ami disparu, avec lequel il chemine, apprécie la pureté de l'air, les brillances du soleil sur les lointains glacés, décrypte les traces laissées au sol par les animaux sauvages. Ce jour-là, c'est Primo qui fait glisser ses skis à côté des siens, même si nulle ombre ne s'allonge derrière lui. Tous deux retrouvent ce dialogue et cette complicité que même la mort n'est pas parvenue à ruiner. Je relis souvent ce texte. Il me suffit de changer les noms pour nous reconnaître, Eugène et moi. Ninon, Marcel, qui s'en fiche totalement, ayant toujours considéré que le cinéma est une activité d'enfant qui refuse de grandir, ce en quoi je lui donne bien raison, et l'avocat, m'ont fait confiance pour recruter quelqu'un capable de diriger la société. J'ai confié la tâche à Kim So, qui a été le directeur de production de plusieurs de mes projets, qui connaissait bien Eugène et qui aime le cinéma que nous aimions. Si tout va bien, La Fabrique intérieure devrait être le premier long métrage produit par les films d'Eugène. Nous avons fêté la naissance de la nouvelle maison. Marcel était déjà reparti pour Singapour. Les avions n'attendent pas, pas plus que les cours du pétrole. Nous étions une dizaine. Les enfants les plus jeunes couraient dans toutes les pièces. Leur mère parlait entre elles, comme à une sortie d'école ou à la fin d'un goûter d'anniversaire. J'étais venu accompagné d'Elena. Ninon m'a présenté un certain Max, quelqu'un de mon âge, elle voulait dire le sien bien entendu, avait-elle tenu à me glisser dans le creux de l'oreille, qui a passé son temps à envoyer et recevoir des messages sur son smartphone. De profil, il ressemblait à Hugh Grant, l'acteur anglais. Mais quand on se trouvait face à lui, son visage accusait un déséquilibre du côté gauche, comme s'il avait été fait de celluloïdes et qu'on l'ait trop approché d'une source de chaleur. Je me suis dit qu'il y avait des êtres qu'il ne fallait voir que de dos, ou d'un seul côté, ou pas du tout. Je me suis aussi demandé quelle impression je pouvais donner aux autres, quelle image mon corps suggérait-il quand on me voyait de derrière ou sur le côté. Nous vivons toujours avec une image partielle de nous-mêmes. Nous ne nous saisissons jamais comme les autres nous voient. Nous ne sommes pour nous-mêmes, la plupart du temps, qu'une surface frontale, plate, jamais une silhouette en déplacement, un corps entier perçu dans l'espace et qui se sculpte dans cet espace en trois dimensions. Seul l'acteur de cinéma, s'il voit les films dans lesquels il joue, ce qui n'est pas toujours le cas, peut avoir cette vision totale de lui-même. Je suis comment de dos ? Ai-je demandé à Elena qui passait alors près de moi en me caressant le bras. Elle a froncé les sourcils, puis a ri en s'éloignant. Je me suis tourné vers Eugène, dont une grande photographie encadrée orne désormais la petite entrée des bureaux. Je ne connaissais pas ce cliché fait par les studios Harcourt, dans ce clair-obscur velouté qui caractérise le style de cette maison dont le destin longtemps a été lié à la légende du cinéma. La photographie date du début de la découverte de la maladie d'Eugène. Ninon me l'a dit. C'est elle qui a voulu mettre la photographie à cet endroit, mais c'est Eugène qui avait souhaité se faire ainsi portraiturer. Eugène regarde le visiteur. Lorsqu'on pousse la porte d'entrée, Eugène nous accueille. Le buste légèrement penché en avant, une amorce de sourire sur les lèvres, le menton reposant sur le poing fermé de sa main gauche. Je le reconnais, certes, mais ce n'est pas tout à fait lui. Sans doute parce qu'il prend une pause, parce que la lumière du studio, le travail léger de retouches opérées sur ses traits, la taille du portrait qui fait que son visage est quatre fois plus grand que dans le réel, tout cela le tire du côté des images. Ce n'est pas l'Eugène que j'ai connu. Ce n'est pas l'Eugène de la vie. C'est un être intermédiaire qui lui ressemble, mais que je n'ai jamais croisé. Chez moi, sur ma table de couturier, j'ai posé un portrait de lui entre mille et une autre chose. Des photographies de ma mère, de mon père, tous deux enfants, de moi-même, enfant également. Des coquilles d'escargot, un fruit de grenade desséché qui a perdu sa couleur et son poids, qui a simplement gardé sa forme exacte, des pots à stylos, des briquets, des blocs-notes, tout un fatras qui prend les proportions d'une installation d'art contemporain et dont je me suis promis un jour de faire la matière d'un film, d'un petit film, qui raconterait l'existence de quelqu'un à travers les objets disposés sur sa table de travail. La photographie d'Eugène, qui est devant moi chaque jour, est un portrait paru dans Le Monde, avec sa nécrologie, et que j'ai découpé. Je l'ai contrecollé sur un carton. Eugène est assis à la terrasse d'un café, près d'une petite table ronde à dessus de marbre. Il tient une cigarette dans sa main droite. Il ne regarde pas l'objectif du photographe. Son visage et ses yeux sont tournés sur sa droite. Il ne paraît pas fixer un point précis, mais le lointain de la rue. Il fait beau, il est en chemise, tout cela est très naturel. Il sourit avec mélancolie, ou plutôt, je trouve son sourire mélancolique. J'aime qu'il ne regarde pas celui qui le regarde. Cela donne un peu moins de gravité à l'image. Sa présence en devient moins pesante et son absence moins appuyée. Je ne pense pas que je pourrais travailler des heures sous le regard de Gêne. Je serais sans cesse occupé à me demander ce qu'il est en train de penser de moi. Il me distrairait. Je lui parlerais. Kim So m'a tapé sur l'épaule. Il me regardait avec un grand sourire. Ce soir-là, le tout nouveau directeur des films de Gêne faisait aussi office de serveur. Il n'arrêtait pas d'aller et de venir, remplissant les verres, proposant Nem et Samoussa et des parts Maggi, la vieille secrétaire. Je dis vieille parce que Gêne ne cessait de dire « ma vieille secrétaire », alors que Maggi a exactement l'âge qu'il avait. Il en parlait affectueusement comme d'un meuble. Disait qu'il en avait hérité en rachetant la société ZKZ Movies, spécialisée dans la production de films X, et dont les beaux jours, en cette fin des années 70, appartenaient au passé. Maggi, à cette époque, s'occupait déjà du secrétariat et de la comptabilité, mais nous avions eu la surprise, Eugène et moi, quelques années plus tard, en retrouvant dans les archives rangées au fond d'un box de la cave un stock de VHS encore sous cellophane, de constater que Maggi avait aussi participé comme comédienne à quelques-unes des productions de ZKZ Movies, dont « Comtesse en rut »,« Lascive en laisse »,« Les fleurs du mal ». Nous n'avions devant elle jamais fait allusion à notre découverte. C'était son secret et ce fut le nôtre. Elle était désormais une petite femme rondelette, agréable, qui faisait 5 ou 6 ans de plus que son âge, habillée constamment de couleurs automnales, et qui venait d'être grand-mère pour la deuxième fois. Parfois, lorsque je l'observais, tandis qu'elle me parlait de certains détails comptables, me donnait des billets de train, vérifiait des rendez-vous avec moi, sans volonté aucune de ma part, me revenaient subitement en mémoire quelques plans des films que nous avions visionnés Eugène et moi. Et au travers du corps actuel de Maggi, se dégageait son corps ancien, comme sortant d'une gangue terreuse, d'une carapace de kaolin retirée du four, et que l'on brise pour mettre au jour une pièce de faïence qu'on y a fait cuire, et qui se révèle parfaite et pure. Mais il m'était impossible de relier son corps de 20 ans, nu et fin, à la toison épaisse et noire, aux aisselles sombres, à la chevelure ramenée en 2 couettes tressées, que caressaient et pénétraient successivement 3 hommes moustachus aux cheveux permanentés, à son corps rebondi d'aujourd'hui, constamment masqué, été comme hiver, par des entassements de tissus, d'écharpes, de pull-overs, de tuniques longues, de pantalons informes, de chemisiers indiens, de bonnets tricotés main, desquels n'apparaissait que son visage, rond comme une pomme, surmonté de cheveux poivre et sel, coupés courts et soulignés par un double menton qui lui dessinait une sorte de collier doux. « Tu rêves ? Je te resserre ?» J'ai tendu mon verre à Kim So. Eugène, dans son cadre, semblait se moquer de moi.